Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade.
FPP 106.3.
C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi.
Fréquence Paris Pluriel.
Tu es un esclave, Néo.
Avec FPP, vous avez le choix.
N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui réunis avec le mouvement Revolucionarios en Francia pour vous présenter une personne de l'Équateur qui va nous aider à analyser la politique de l'Équateur et son actualité. Je passe l'antenne à Rosario, une des camarades du mouvement, pour qu'elle puisse nous présenter la personne qui va nous accompagner durant cette interview.
Bonjour, je me présente, je suis Rosario Borja et participante del collectif Revolutionarios en France, représentant l'Équateur. D'abord, je voudrais remercier Paris Pluriel pour l'espace qu'il nous donne. Puis je vais présenter un docteur en histoire, Monsieur Juan Paz y Miño Cepeda. C'est un Équatorien qui est très connu en Latinoamérique pour tout son travail. Il a été l'auteur de plusieurs livres et aussi il est columniste dans des importants médias. Sa profession, comme je l'ai dit, c'est un docteur en histoire, c'est un professeur aussi d'université. On va écouter son analyse con respecto al Ecuador y c'est ce qui se passe en ce moment.
Juan, estamos ya a la antena, si por favor nos puede dar una ligera introducción de lo que vamos a hablar, por favor, antes de empezar.
Gracias. Muchas gracias por esta participación.
Merci beaucoup pour cette participation.
A Rosario Borja que me invitó.
Merci a Rosario qui nous a invité, Alexandra aussi.
Pour
la traduction.
Y al colectivo revolucionario en Francia. Así como a la radio
FPP y la radio plurielle Paris.
Voy a hacer una exposición en dos partes.
Je vais faire un exposé en deux parties.
La primera con algunos antecedentes históricos.
La première avec quelques antécédents historiques de l'Équateur.
Y la segunda relativa a la coyuntura del Ecuador.
Et la deuxième concernant la conjoncture de l'Équateur.
Un saludo a todos los que nos están escuchando, a todas las personas que nos escuchan y que nos ven.
Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment même.
¿Podemos comenzar?
Sí, Juan, por favor. Comienza.
Listo. Bueno, vamos adelante. El año pasado, Ecuador conmemoró los 40 años de retorno a la democracia después de una década de dictaduras militares. 1979 lucía como un momento esperanzador, pues la democracia arrancaba con una constitución muy progresista. Pero esos prometedores momentos pronto acabaron.
Donc, l'année dernière, l'Équateur a commencé les 40 ans de retour à la démocratie après une décennie de dictature militaire. En 1979 semblait être un moment d'espoir, car la démocratie commençait avec une constitution très progressiste. Mais ces moments prometteurs se sont terminés assez rapidement.
Entre 1979 y 1996, es decir, en 17 años, se sucedieron 5 gobiernos. Pero entre 1996 y 2006, es decir, en 10 años, hubo 7 gobiernos, una dictadura por horas y los únicos 3 presidentes que ascendieron por elecciones fueron derrocados. ¿Qué es lo que explica esa escandalosa crisis institucional y de gobernabilidad en Ecuador?
Entre 1979 et 1996, c'est-à-dire en 17 ans, 5 gouvernements se sont succédés. Mais entre 1996 et 2006, pendant 10 ans donc, il y a eu 7 gouvernements. Une dictature qui a duré quelques heures et les 3 présidents élus démocratiquement ont été renversés. Comment expliquer cette scandaleuse crise institutionnelle et de gouvernabilité en Équateur?
Hay múltiples causas. Sin embargo, existe una razón profunda de orden económico que se impone sobre todas las otras. En 5 lustros, 25 años, se fue construyendo ese modelo neoliberal empresarial que fue el determinante de todos los otros problemas que caracterizaron la vida del país hasta 2006.
Les causes sont multiples. Cependant, il existe une raison profonde d'ordre économique qui s'impose sur toutes les autres. En cinq ans, se construisait le modèle économique néolibéral qui a été le déterminant de tous les autres problèmes qui ont caractérisé la vie du pays jusqu'en 2006.
Los ejes del modelo descrito fueron cuatro.
Donc, les axes du modèle décrit étaient quatre.
En primer lugar, el país trató de vincularse al mercado mundial globalizado respondiendo a las geoestrategias del capital transnacional.
Donc, premièrement, le pays a tenté de se lier au marché global répondant aux géostratégies du capital transnational.
Por tanto, se subordinó a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional a través de 16 cartas de intención suscritas entre 1983 y 2003.
Il se soumet donc aux exigences du FMI par 16 lettres d'intention signées entre 1983 et 2003.
La esencia de los programas impuestos por el FMI tuvieron en la mira el pago de la deuda externa, que fue el problema central de América Latina durante las dos décadas finales del siglo XX. Así es que Ecuador cumplió con las medidas liberadoras del Fondo Monetario y se sujetó a sus programas de ajuste estructural.
L'essence des programas imposés par le FMI visait a payer la dette externe, ce qui était le problème central de l'Amérique latine au cours des deux dernières décennies du XXe siècle. C'est ainsi que l'Équateur met en place les mesures de, entre guillemets, libération du FMI et se soumet à ces programmes, à nouveau entre guillemets, d'ajustement structurel.
En segundo lugar, el modelo neoliberal empresarial postuló el retiro del Estado, el achicamiento de sus capacidades económicas, el estrangulamiento de sus inversiones en obras y servicios públicos.
Deuxièmement, le modèle économique néolibéral postulait le retrait de l'État, le rétrécissement de leurs capacités économiques, l'étranglement de leurs investissements en travaux et services publics.
En consecuencia, avanzó la privatización de empresas, fueron recortados los presupuestos, disminuyó la inversión pública y los servicios fundamentales en educación, en salud, seguridad social y vivienda entraron en un creciente proceso de deterioro y desatención.
Ce qui a donné comme conséquence la privatisation des entreprises, donc qui ont progressé, les budgets furent réduits, la diminution des investissements publics et des services fondamentaux dans l'éducation, la santé, la sécurité sociale et le logement subirent un processus croissant de détérioration et de négligence.
En tercer lugar, se volvió una consigna a seguir la abolición o disminución de impuestos directos en un pernicioso afán por quitar a las élites ricas y empresariales del país las cargas tributarias que, según ellos, afectaba la posibilidad de crecer en los negocios y estimular el desarrollo.
Troisièmement, il apparaît tel comme une consigne à suivre l'abolition ou réduction des impôts directs dans un empressement pernicieux d'enlever aux élites riches du pays les charges fiscales qui, selon eux, affectaient la possibilité de croître économiquement et empêchaient le développement.
Lo cierto es que la recaudación tributaria fue debilitada al mismo tiempo que creció la evasión de impuestos y la fuga de capitales al exterior para esconderse en paraísos fiscales.
Ce qui est certain, c'est que la collecte des impôts a été affaiblie, en même temps que l'évasion fiscale avait augmenté et la fuite des capitaux à l'étranger pour se nicher dans des paradis fiscaux.
Y en cuarto lugar, cada vez fue mayor la presión para flexibilizar las relaciones laborales, afectando derechos de los trabajadores. De tal manera que las elevaciones de salarios fueron contenidas al máximo. El sindicalismo debilitado, el derecho al contrato colectivo fue igualmente golpeado, tanto como el derecho a la huelga. Los trabajadores experimentaron el derrumbe de sus salarios ante una galopante inflación.
Y quatrièmement, la presión por assouplir les relations de travail augmenté, affectant ainsi les droits des travailleurs. Les augmentations des salaires ont été stoppées au maximum. Le syndicalisme affaibli, le droit au contrat collectif fut également abattu, ainsi que le droit de grève. Les travailleurs expérimentèrent l'effondrement de leur salaire face à cette galopante inflation.
Si se acude a las estadísticas y a los estudios más serios que se han realizado sobre el Ecuador, se comprenderá que el modelo neoliberal empresarial provocó el deterioro sistemático de las condiciones de vida y de trabajo de la población, mientras que del otro lado se acumuló la riqueza en un reducido sector de empresarios, miembros de una élite de grupos económicos oligopolistas.
Si on se réfère donc aux statistiques et études les plus sérieuses qui ont été menées sur l'Équateur, on comprendra que le modèle économique néolibéral a provoqué la détérioration systématique des conditions de vie de travail de la population, tandis que de l'autre côté, la richesse s'est accumulée dans un secteur réduit d'hommes d'affaires membres d'une élite de groupes économiques oligopolistiques.
También se comprenderá que para 2006, en Ecuador existía una amplia y generalizada decepción contra la clase política, un clima de rechazo a los gobiernos corruptos e ineptos y una situación explosiva contra la continuidad de un sistema político que solo servía a las élites privilegiadas, pero que de ningún modo se había preocupado de mejorar la calidad de vida de la población.
On comprendra également qu'en 2006, en Équateur, il y avait une large déception généralisée contre la classe politique. Un climat de rejet des gouvernements corrompus et incompétents, une situation explosive contre la continuité d'un système politique qui ne servait que les élites privilégiées et privées, mais nullement soucieuses d'améliorer la qualité de vie de la population.
Ante esas circunstancias, fue que la candidatura de Rafael Correa en 2006 parecía ofrecer una alternativa de renovación y de reforma profunda para el país.
C'est dans ces conditions que la candidature de Rafael Correa en 2006 semblait offrir une alternative de rénovation et de réforme profonde pour le pays.
El proceso se cumplió. Rafael Correa, con amplio respaldo popular, triunfó en segunda vuelta y asumió la presidencia de la República el 15 de enero de 2007.
C'est ainsi que Rafael Correa est devenu une réalité. Avec un large soutien populaire, il triomphe au deuxième tour et assume la présidence de la République le 15 janvier 2007.
Enseguida convocó a la Asamblea Constituyente y la Constitución aprobada fue sometida a un referendo nacional en el que dicha Constitución tuvo el mayoritario apoyo.
Il a immédiatement convoqué à l'Assemblée constituante et la Constitution approuvée fut soumise à un référendum national dans lequel la dite Constitution avait le soutien de la majorité.
La Constitution de 2008 récupéra capacidades institucionales y económicas para el Estado. Introdujo el principio del buen vivir o suma causae como orientador para un nuevo sistema socioeconómico.
La Constitution de 2008 a retrouvé des capacités institutionnelles et économiques pour l'État et elle introduit le principe du bon vivre ou summa causae qui comme guide modèle pour un nouveau système socio-économique.
Trajo temas innovadores como la proclama de Estado plurinacional, la ciudadanía universal, los derechos de la naturaleza, Ecuador como país de paz, el derecho a la resistencia, el latinoamericanismo como eje fundamental en las relaciones internacionales, la oposición a toda forma de imperialismo, colonialismo y neocolonialismo.
Donc, elle apporte cette constitution de 2008 des thèmes innovants tels que la proclamation de l'État plurinational, la citoyenneté universelle, les droits de la nature, l'Équateur en tant que pays de paix, le droit à la résistance, le latino-américanisme en tant qu'axe fondamental dans les relations internationales, l'opposition à toutes les formes d'impérialisme, colonialisme et néocolonialisme.
Además, fueron ampliados y consagrados derechos de los trabajadores, los derechos de la población indígena, así como los de las minorías sociales. Fueron reforzados los mecanismos de la democracia directa, comme la consulta populaire et la iniciativa ciudadana en las leyes.
En outre, les droits des travailleurs ont été étendus et concrétiser les droits des populations autochtones ainsi que ceux des minorités sociales. Les mécanismes de la démocratie directe ont été renforcés, tels que la consultation populaire et l'initiative citoyenne dans les lois.
Ainsi se inició l'administration du président Correa, qui duró desde 2007 hasta 2017, porque fue reelecto en 2009 bajo la flamante constitución y luego en 2013.
C'est ainsi qu'a commencé donc l'administration du président Rafael Correa, qui a duré de 2007 à 2017. Il a été réélu en 2019 sous la toute nouvelle constitution, puis en 2013.
Su gobierno se caracterizó precisamente por llevar una línea distinta a la que se había consolidado en las décadas anteriores.
Son gouvernement se caractérisait précisément pour mener une ligne différente de celle qui s'était consolidée dans les décennies précédentes.
Hay varios ejes impulsados por el gobierno de Correa. Uno, reforzó las capacidades del Estado y su institucionalidad, reguló la economía y sujetó a las élites a las políticas estatales.
Donc il existe plusieurs axes promus par le gouvernement de Rafael Correa. Il a renforcé donc premièrement, il a renforcé les capacités de l'État et son institutionnalité. Il a régulé l'économie et soumis les élites aux politiques de l'État.
Sobre todo, recuperó y fortaleció los servicios públicos, particularmente en educación, salud y seguridad social.
Il a surtout récupéré et renforcé les services publics, notamment dans l'éducation, la santé et sécurité sociale.
Dos, se fortaleció el sistema tributario, incrementando la recaudación de impuestos, persiguiendo a los evasores y afirmando los impuestos directos como el de rentas.
Deuxièmement, le système fiscal a été renforcé, la collecte des impôts augmentée, les fraudeurs pourchassés et les impôts directs tels que les rentes consolidés.
Tres, fueron respetados los derechos laborales, colectivos, comunitarios de las poblaciones indígenas. Aumentaron sistemáticamente los salarios.
Troisièmement, les droits du travail, collectif, communautaire, des populations autochtones furent respectés. Les salaires furent augmentés systématiquement.
Cuatro, se llevó una política de soberanía, dignidad nacional y latinoamericanismo. Porque el gobierno de Correa entró a formar parte del ciclo de gobiernos progresistas de América Latina. Y en tal virtud se identificó con los otros gobernantes de Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, acercándose a todos a través del ALCA, UNASUR y CELAC.
Donc il a mené aussi une politique de souveraineté, de dignité nationale et latino-américanisme. Durant son mandat, Rafael Correa fait partie du cycle des gouvernements progressistes latino-américains et en tant que tel, il s'est identifié aux autres dirigeants comme Cuba, Venezuela, Argentine, Uruguay, Bolivie, Brésil, s'en rapprochant à travers l'ALCA, l'UNASUR et la CELAC.
En América Latina, en nuestra región, tanto Correa como Hugo Chávez y Evo Morales fueron considerados los más coherentes y radicales.
Dans la région, donc en Amérique latine, Correa, comme Hugo Chávez et Evo Morales, ont été considérés comme les plus cohérents et les plus radicaux.
Los estudios internacionales de la CEPAL, el Banco Mundial, el PNUD y otras instituciones, tanto como una serie de investigaciones ecuatorianas, han evaluado el camino y las políticas del gobierno de Rafael Correa, destacando como los más importantes logros la profunda disminución de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de vida de una amplia población, la redistribución de la riqueza, el crecimiento de las capas medias, el avance sustancial de las obras y los servicios públicos.
À cet effet, des études internationales de la CEPALAC, de la Banque mondiale et d'autres institutions, ainsi que d'une série de recherches équatoriennes, ont évalué la politique et la trajectoire du gouvernement de Rafael Correa. soulignant comme la plus grande des réussites la réduction profonde de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie d'une partie importante de la population, la redistribution des richesses, la croissance des couches moyennes, le progrès substantiel des travaux et des services publics.
Pero igualmente han sido destacados una serie de límites de aquel ciclo de la Revolución Ciudadana, entre los que cabe anotar algunos.
Mais également une série de limites et de cycles de la Révolution citoyenne ont été mis en évidence.
Correa despertó pasiones a favor y en contra.
Donc Rafael Correa a suscité des passions en faveur et contre lui, contre le correísmo.
Sus principales opositores fueron los partidos de la derecha política, pero también el alto empresariado, a pesar de que todos hicieron buenos negocios por el mejoramiento de la economía.
Ses principaux opposants étaient les partis politiques de droite, bien sûr, mais aussi les gros industriels, bien que tout cela ait fait des gros bénéfices grâce à l'amélioration de l'économie du pays.
Sin duda, no fue un gobierno bien visto por los Estados Unidos y otros gobiernos aliados a este imperio.
Sans aucun doute, ce n'était pas un gouvernement bien vu par les États-Unis ou d'autres gouvernements alliés.
Tuvo una prensa sistemáticamente opuesta, aunque contó con medios públicos que pudieron contrarrestar las campañas en su contra.
Il avait les médias privés systématiquement contre son gouvernement, bien qu'il ait eu des médias publics pour contredire les campagnes à son encontre.
Correa confrontó permanentemente con sus opositores y particularmente con la prensa.
Donc Rafael Correa a dû affronter en permanence ses adversaires, mais plus particulièrement ceux de la presse.
Pero también lo hizo con una serie de dirigentes sociales. La izquierda tradicional rompió con él. Sin embargo, electoralmente obtuvo triunfos en 10 procesos que incluyeron varias consultas populares.
Mais il a aussi confronté une série de dirigeants sociaux. La gauche traditionnelle a rompu avec Rafael Correa. Cependant, sur le plan électoral, il a gagné en 10 processus dont plusieurs référendums.
Et autre de sus límites, en sus dos últimos años de gobierno, afectado por la recesión económica que empezó en toda Latinoamérica, aflojó ciertas políticas estatales, lo que significó plantear una nueva estrategia basada en las alianzas público-privadas, la suscripción de un tratado de comercio con Europa y ciertas flexibilizaciones laborales.
Mais, et donc, il y a eu comme, aussi dans ses limites, c'est dans les deux dernières années de son mandat, affecté par la récession économique qui a commencé dans toute l'Amérique latine, un assouplissement des politiques d'État qui fut à ce moment-là nécessaire, ce qui signifiait une nouvelle stratégie basée sur des alliances publico-privées, le traité d'un accord commercial avec l'Europe et certaines flexibilisations du travail.
En todo caso, la Revolución Ciudadana confió que para las elecciones de 2017 podía tener apoyo en la población con la candidatura de Lenín Moreno para la presidencia.
En tout cas, la Révolution citoyenne était confiante pour les élections de 2017. Elle espérait avoir le soutien de la population avec la candidature de Lenín Moreno à la présidence.
Ciertamente, Alianza País, el partido de gobierno, obtuvo el triunfo, aunque Moreno alcanzó solo 51.16% de los votos, mientras su rival, el millonario y banquero Guillermo Lasso, alcanzó 48.84% de la votación.
Donc, certes, Alianza País, le parti au pouvoir, a remporté la victoire, bien que Moreno atteint seulement 51,16% des voix, tandis que son rival, le millionnaire et banquier Guillermo Lasso, avait obtenu 48,84% des voix. Donc, une petite différence de 3 points.
El 24 de mayo de 2017, Lenín Moreno asumió la presidencia de la República. Parecía que la continuidad de la Revolución Ciudadana estaba garantizada pero no ocurrió así.
Donc, le 24 mai 2017, Lénine Moreno a assumé la présidence de la République. Il semblait que la continuité de la révolution citoyenne était garantie, mais cela ne s'est pas passé ainsi.
Hasta el día de su posesión, Moreno no había dejado de alabar a Correa, a quien llegó a ensalzar como el mejor presidente que ha tenido el país.
Jusqu'au jour de sa possession, Lénine Moreno n'a cessé de louer Rafael Correa. Il disait même que son prédécesseur fut le meilleur président que l'Équateur eut.
Se confiaba en corregir errores y limitaciones, pero en cuestión de días, Moreno comenzó a hablar de nuevos aires de libertad y en pocas semanas a cuestionar el pasado inmediato para enseguida pasar a la ruptura con Correa y de allí al giro total de su gobierno.
Certes, il était question de corriger et rattraper des erreurs, mais en quelques jours, Lénine Moreno commence à parler de nouveaux airs de liberté. En quelques semaines plus tard, à remettre en question en fait le passé immédiat et basculer ainsi immédiatement à la rupture avec Rafael Correa, avec un changement à 180 degrés de la politique de son gouvernement.
La descorreización fue una política permanente.
La dite descorreización, qui a comme but de défaire le correísmo, était une politique permanente.
Se utilizó la denuncia de escandalosos casos de corrupción pública, el involucramiento judicial de distintas personalidades y funcionarios del régimen anterior, el lawfare, la persecución política a los correístas y el acoso e incluso clausura de distintos medios de comunicación alternativos identificados como correístas.
Des dénonciations des cas de corruption publique sont apparues ici et là et utilisées dans le but d'une implication judiciaire de différentes personnalités et fonctionnaires du régime précédent. Le lawfare, la persécution politique aux correístas et le harcèlement et même fermeture des différentes médias alternatifs identifiés comme correístas.
El modelo neoliberal se ha constituido en la base de todo el sistema gubernamental.
Donc le modèle économique néolibéral est devenu la base même de tout le système gouvernemental.
Alexandra, yendo un poquito más abajo en definitiva, los ejes del segundo modelo neoliberal vigente en el país han recobrado el viejo camino.
Oui, les axes du deuxième modèle économique néolibéral implanté dans le pays ont récupéré l'ancien chemin.
Uno, reducir las capacidades del Estado.
Donc, premièrement, réduire les capacités de l'État.
Dos, reducir o suprimir impuestos directos y particularmente los que afectan al sector empresarial privado.
Deux, la réduction ou suppression d'impôts directs et en particulier ceux affectant le secteur des grosses entreprises privées.
Tres, flexibilizar las relaciones laborales.
Trois, assouplir les relations de travail.
Y cuatro, vincular la economía a las estrategias de la globalización americanista y del capital transnacional.
Et quatrièmement, relier l'économie aux stratégies de la globalización americaniste et du capital transnacional.
Para terminar esta primera parte, se comprenderá que el giro gubernamental y las políticas que ahora se ejecutan cuentan con aliados poderosos, sin duda el imperialismo, pero internamente los grupos económicos que constituyen la élite empresarial del país, además los medios de comunicación privados más influyentes y sin duda los partidos de la derecha política.
Donc naturellement, le retournement de veste du gouvernement et les politiques qui sont appliquées actuellement comptent avec des puissants alliés. Sans aucun doute, l'impérialisme, mais en interne, les groupes économiques qui constituent l'élite des grandes industries du pays. De plus, les médias privés les plus influents et sans aucun doute, les partis politiques de droite.
Hasta aquí esta primera parte de carácter, más o menos.
Donc, on finit cette première partie à caractère historique de l'Équateur, enfin de sa politique, pour comprendre le avant et le après, avant le mandat de Rafael Correa et comment le modèle néolibéral, économique néolibéral s'est implanté en Équateur et qui est devenu aujourd'hui une actualité pendant la présidence de Lénine Moreno. Donc il y a peut-être quelques questions, Rosario, par rapport à ce qui vient d'être dit.
Mais je vais faire les questions en espagnol. Docteur Juan Paz y Miño, una primera pregunta es con respecto a las grandes industrias en Ecuador. ¿Por qué estos grandes industriales, a pesar de haber tenido grandes ganancias sustanciales, fueron feroces opositores y odiadores del gobierno de Rafael Correa?
Donc alors je traduis juste, la question c'est: pourquoi, si ces gros groupes industriels ont bénéficié de cette politique durant le mandat de Rafael Correa, puisque l'économie du pays était très bonne, pourquoi ils sont quand même, malgré cela, devenus des gros opposants de la politique de Rafael Correa?
Bah, antes de Correa, los grandes empresarios y la clase tradicional dirigente dominaba no solo la economía sino la política e incluso los gobiernos.
Donc avant que Rafael Correa arrive au pouvoir, ces groupes industriels dominaient non seulement la politique mais l'état même du pays.
Correa no afectó sus negocios.
Donc
Rafael su poder.
D'accord, donc Rafael Correa n'avait pas affecté leur business, hein, si on peut dire, mais plutôt le pouvoir qu'ils avaient.
Il sujetó estos grupos, estas empresas, sujetó a las necesidades sociales y del Estado. Por ejemplo,
et donc, ce qui n'a pas plu, c'est que Rafael Correa a mis de mesures des impôts qui sont venus affecter en quelque sorte ces gros industriels.
Enfin,
qui ne leur a pas plu en tout cas.
Acostumbrados a tener, como decimos en español, acostumbrados a tener la bolsa, también querían la corona.
Donc, il y a un proverbe en Équateur, mais que je vais le dire en français, ils étaient habitués à avoir le beurre, l'argent du beurre et la beurrière.
Una segunda pregunta, doctor Juan Paz y Miño, es el clima de rechazo que provocó el estado de inestabilidad durante una década en Ecuador. Ese clima de rechazo en la población, ¿lo ve usted ahora en Ecuador?
Alors, la question c'est ce climat de rejet qu'il y a eu aussi avant l'arrivée de Correa. Est-ce que c'est le même climat et la même force de rejet qu'on retrouve dans la population en Équateur?
Va creciendo porque hay un desencanto frente al gobierno, hay un rechazo a las políticas que se han implementado.
Donc,
y hay un cuestionamiento a retorno de la vieja clase política y de los viejos intereses económicos.
Donc effectivement oui, ça grandit même ce rejet de la population envers ces politiques qui retournent, qui font des pas en arrière vers l'ancienne politique et l'ancien chemin de cette politique économique néolibérale.
En vista de que existe este rechazo justamente, ¿usted cree que hay una luz de esperanza para que el Ecuador pueda nuevamente tomar el rumbo de una igualdad social y un progreso social?
Donc, vous croyez qu'en vue de ce rejet qui grandit, qui prend force en Équateur, il y a une lumière d'espoir pour qu'on revienne en quelque sorte au bon vivre que nous avons connu avant 2017?
Voy a tratar algo en la segunda parte, pero adelanto una idea.
Alors, il va traiter ça dans la deuxième partie, donc dans la conjoncture, mais j'avance, dit-il, une idée.
En Ecuador, nuestra sociedad puede soportar el peso de un mal gobierno durante largo tiempo.
Donc, en Équateur, notre société peut supporter le poids d'un mauvais gouvernement pendant très longtemps, mais...
Pero, en un momento determinado, explosiona.
Mais
y eso
un moment donné,
es lo que da esperanza.
mais à un moment donné, ça finit par exploser et c'est ça qui nous donne aujourd'hui espoir.
Porque finalmente es la sociedad la que tiene que asumir las riendas de la resistencia, la oposición, la crítica.
Car finalement, c'est la société qui doit assumer aujourd'hui de diriger en tout cas cette force de lutte pour finir avec ces politiques actuelles.
Sí.
De retour sur Radio Pluriel pour reprendre donc la deuxième partie et la conclusion d'ailleurs de ce qu'on vient d'exposer avec l'historien Juan Paz y Miño. Et cette fois-ci, on va parler de la conjoncture en Équateur. Donc je laisserai Juan Paz y Miño pour qu'il puisse développer cette partie et je traduirai. Juan, l'escuchamos, por favor.
Gracias. En el panorama descrito, el papel de las izquierdas y de los movimientos sociales resulta contradictorio. El sector tradicional, que luego del apoyo inicial a Correa rompió con él y pasó a la oposición, también consideró a Moreno como un continuista.
Dans ce scénario décrit, le rôle de la gauche et des mouvements sociaux est contradictoire. Le secteur traditionnel, qui après le soutien initial à Rafael Correa a rompu avec lui et est devenu de l'opposition, avait également considéré Lenin Moreno como un continuador.
Pero ante el giro político del mandatario, es decir, de Moreno, apuntalaron la descorreización. Sin embargo, al profundizarse la vía neoliberal empresarial, todos esos sectores se volvieron críticos y algunos rompieron definitivamente con el gobierno de Moreno.
Mais face au virage politique du président, la descorreización fut largement soutenu par les opposants. Cependant, en approfondissant l'économie néolibérale, tous ces secteurs sont devenus critiques. Certains ont même rompu toute alliance avec le gouvernement.
La firma de l'accord entre le gouvernement et le Fonds monétaire international en mars 2019, qui llevó à expedir el decreto 883, por el cual se derogaron los subsidios a los combustibles, condujo al levantamiento indígena y popular de octubre de 2019.
La signature de l'accord entre le gouvernement et le FMI en mars de 2019, qui conduisait à émettre le décret 883, abrogeant les subventions au carburant, a provoqué le soulèvement indigène et populaire en octobre 2019.
En la versión oficial, atrás de la violencia desplegada en octubre, estuvo el correísmo.
Dans la version entre guillemets officielle, derrière toute cette violence déployée en octobre était le correísmo.
Pero en un país fraccionado por una clara lucha de clases, el apoyo de poderosas fuerzas al gobierno de Lenín Moreno no ha evitado el continuo deterioro de su legitimidad social. De modo que en la actualidad, todas las encuestas destacan que entre el 70 y el 90% de la población desconfía del gobierno, no cree en él, experimenta que el país ha retrocedido y ha perdido fe en su futuro.
Mais dans un pays divisé par une claire lutte de classe, le soutien des forces puissantes envers le gouvernement de Lenin Moreno n'a pas pu éviter la détérioration continue de sa légitimité sociale. Au point que actuellement, toutes les enquêtes soulignent qu'entre 70 et 90% de la population n'a plus confiance en ce gouvernement, ne croit plus en lui, constate que le pays a reculé et a perdu espoir en l'avenir.
El renacimiento del segundo modelo neoliberal en Ecuador ha comenzado a evidenciar sus logros, pues de acuerdo con las estadísticas nacionales y diversos estudios internacionales, la economía está en franco declive, al mismo tiempo que aumenta la concentración de la riqueza entre las élites, el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo en la población, así como el descuido de los servicios públicos y el retroceso en las inversiones estatales.
Donc la renaissance du deuxième modèle économique néolibéral en Équateur a commencé à montrer entre guillemets ses réussites, car selon des statistiques nationales et diverses études internationales, l'économie est en forte baisse. En même temps que la concentration de la richesse parmi les élites augmente, s'accentue la détériorisation détérioration, pardon, des conditions de vie et de travail de la population, ainsi que la négligence des services publics et le déclin dans les investissements publics.
Las derechas económicas y políticas confían que el gobierno deje sentadas las bases para impedir el retorno de una economía populista, como la que dicen impulsó Rafael Correa.
La droite économique et politique espère que ce gouvernement laissera bien planter les bases pour empêcher le retour d'une économie populiste, comme il l'appelle, comme celle qui aurait propulsé Rafael Correa.
Para el espacio de las izquierdas, la situación nacional resulta compleja.
Pour l'espace des partis de gauche, la situation nationale est complexe.
A raíz de la explosión social de octubre, se perfilaron líderes indígenas como posibles candidatos presidenciales hacia el futuro inmediato.
Donc après l'explosion sociale d'octobre dernier, des dirigeants autochtones ont été présentés comme des candidats possibles présidentiels pour les prochaines élections.
Pero habrá que esperar la posición definitiva que asuman tanto la CONAIE como Pachakutik, que son las máximas organizaciones del movimiento indígena.
Mais il faudra attendre la position finale de la CONAIE et Pachakutik, qui sont les principales organisations du mouvement.
El Frente Unitario de Trabajadores luce como cabeza dirigente del movimiento obrero, pero hay otras organizaciones que no solo cuestionan sus actuaciones, sino que anhelan un recambio en las estrategias políticas del FUT.
Le Front Unitaire des Travailleurs se profile à la tête du mouvement ouvrière, mais il existe d'autres organisations qui remettent en question non seulement leur action, mais ils aspirent à un changement de stratégie politique.
Los partidos de la izquierda tradicional hoy son críticos del gobierno.
Donc les partis de la gauche traditionnelle aujourd'hui sont critiques du gouvernement.
Se ha llamado a conformar un frente cívico-social que presente al país una alternativa democrática.
Donc ils ont lancé un appel à former un front civique social qui offre au pays une alternative démocratique.
El correísmo ha sido seriamente golpeado, no solo por la persecución política, sino por la imagen negativa que han creado los escandalosos casos de corrupción.
Le correísmo a été sérieusement frappé, non seulement par les persécutions politiques, mais aussi par l'image négative créée par les scandaleux cas de corruption.
Pero es muy importante considerar la labor ideológica cumplida por los medios de comunicación mercantiles, el laufer convertido en práctica cotidiana y sin duda la descorreización alentada o aplaudida por distintos sectores sociales.
Mais il est important de souligner que ce travail idéologique accompli par les médias privés et le faire transformer en pratique et transformer en pratique quotidienne et sans aucun doute la descorreisation encouragée et applaudie par différents secteurs sociaux.
Sin embargo, a pesar de todas las condiciones adversas, la Revolución Ciudadana cuenta con significativa presencia social y las encuestas le otorgan entre el 20 y el 30% de apoyo ciudadano.
Cependant, malgré toutes les conditions défavorables, la Révolution Citoyenne a une présence sociale importante et les sondages lui confèrent entre 20 et 30% de soutien citoyen.
Más allá de estos rasgos de la coyuntura inmediata, Ecuador atraviesa por un momento de reflujo histórico.
Au-delà de ce tableau de conjoncture immédiate, l'Équateur traverse un moment de reflux historique.
Ha sido frenado el proceso de construcción de una economía social basada en los principios del buen vivir y los lineamientos fijados por la Constitución del 2008.
Le processus de construction d'une économie sociale basée sur les principes du bon vivre et des lignes directrices établies par la Constitution de 2008 ont été interrompus.
El país está alineado con los gobiernos conservadores de América Latina y responde a la geoestrategia continental del americanismo.
Le pays est aligné avec les gouvernements conservateurs d'Amérique latine et il répond à la géostratégie continentale de l'américanisme.
las élites económicas y políticas no están dispuestas a perder nuevamente la decisiva influencia alcanzada por el poder, y las condiciones internacionales se inclinan a desfavorecer todo por mantener en América Latina gobiernos progresistas de nueva o vieja izquierda.
Les élites économiques et politiques ne sont pas disposées à perdre à nouveau l'influence décisive atteinte dans le pouvoir. Et les conditions internationales sont enclines à saper toute tentative de maintenir des gouvernements progressistes de la nouvelle ou ancienne gauche en Amérique latine.
La région vive una época de agudas tensiones sociales que han estallado en varios países, entre los cuales Chile destaca porque allí se ha cuestionado un sistema económico y social que era considerado como paradigma neoliberal.
La región connaît une ère de tension sociale aiguë qui a éclaté dans plusieurs pays, dont le Chili, où il y a une véritable remise en cause d'un système économique et social qui était considéré comme un paradigme néolibéral.
De igual modo, en Brasil y sobre todo en Bolivia, se reflejan las expresiones más radicales del conservadorismo derechista, capaz de lanzar la represión más aguda con tal de preservar el dominio privado y oligárquico.
De même, au Brésil et surtout en Bolivie, se reflètent les expressions les plus radicales du conservatisme de droite, capables de déclencher la répression la plus aiguë afin de préserver le domaine privé et oligarchique.
México y Argentina representan las esperanzas por la renovación del progresismo y la izquierda. Cuba sufre el asedio reforzado del imperialismo, que tampoco descuida su labor contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y los Estados Unidos libran en el continente una toma de posiciones para intentar contrarrestar el avance de los intereses de Rusia y particularmente de China.
Le Mexique et l'Argentine représentent aujourd'hui l'espoir d'un renouvellement progressiste et de la gauche. Cuba souffre du blocage renforcé de l'impérialisme, qui ne néglige pas non plus son acharnement contre le gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela. Et les États-Unis prennent des positions stratégiques sur le continent pour tenter de contrecarrer les intérêts de la Russie et en particulier de la Chine.
En el contexto regional, a las izquierdas tocará dos tareas con perspectiva histórica. De una parte, intentar la unión para coincidir en planteamientos de base y apoyo popular que permitan retomar la vía de construcción de una economía social en el corto y mediano plazo y de una sociedad postcapitalista en el largo plazo.
Dans le contexte régional, les partis de gauche auront deux alternatives avec une perspective historique. D'une part, tenter l'union pour coïncider avec les approches de base et soutien populaire qui permettraient de reprendre la voie de construction d'une économie populaire, qui permettrait également de reprendre, d'une économie sociale à court et moyen terme et d'une société post-capitaliste à long terme.
Et de l'autre part, encarar décisivement la communication internationaliste pour fijar stratégies communes, projets mutuos et politiques d'interconnexion de acciones con las izquierdas latinoamericanas, al modo que lo hacen las fuerzas de derecha.
Et d'autre part, c'est très intéressant de confronter de manière décisive la communication internationaliste pour définir des stratégies communes, projets mutuels et politiques d'interconnexion des actions avec la gauche latino-américaine de la même façon que fait la droite.
Pero debe quedar en claro que en Ecuador la disputa central se halla en el campo de la economía, donde se enfrentan dos modelos, el neoliberal empresarial y la economía social del buen vivir. Sobre esta premisa tendrá que ubicarse la lucha política interna que definirán las posiciones electorales hacia el 2021.
Que ce soit clair, pour conclure donc cet exposé, en Équateur, la dispute centrale se trouve sur le secteur de l'économie, où se confrontent deux modèles, l'économie néolibérale et l'économie sociale du bon vivre. Sur cette prémisse devra se placer la lutte politique interne et se définiront les positions électorales en 2021.
Merci.
Muchas gracias, merci Juan. Vamos a hacerle algunas preguntas y la sí. intervención de uno de los compañeros de la radio que también le hará algunas preguntas que yo me permitiré traducirle. Donc, il y aura un camarade de la radio aussi qui va intervenir pour faire poser quelques questions que je me permettrai de traduire ensuite.
Alors, bonjour. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on peut faire le lien avec ce qui se passe à travers le monde et cette façon que la société, elle a de voir les choses très, très, très libérales.
Comment podemos hacer esa comparación o ese punto de acercamiento entre lo que está pasando en el mundo en varios continentes de este modelo económico neoliberal?
En el mundo occidental, al menos, el modelo neoliberal avanzó después del derrumbe del socialismo.
Que dans le monde occidental, le modèle économique néolibéral a avancé après la défaite du socialisme.
Y si bien en Europa tienen un nivel, dijéramos, más elevado de vida que en las sociedades de América Latina.
Et même si en Europe, le niveau de vie est un peu plus élevé que celui de notre continent, pour prendre un exemple, l'Amérique latine.
Cuentan, por ejemplo, todavía con seguridad social, tienen un desarrollo industrial.
Il y a encore donc le service public comme la sécurité sociale et le développement de l'industrie aussi.
El neoliberalismo allá es, dijéramos, trae menos conflictividad que en América Latina, donde el neoliberalismo provoca desastres sociales.
Donc le néolibéralisme ici en Europe peut encore se soutenir, se vivre, alors qu'en Amérique latine, il provoque des véritables désastres dans la société.
Entonces, vivimos una época en que tenemos que aprender a controlar las riquezas, a redistribuirlas y nuevamente a garantizar a la población sus mejores condiciones de vida y de trabajo.
Donc on vit dans une époque où on doit réapprendre à redistribuer les richesses et aller vers le bon vivre en société.
El neoliberalismo se demostró históricamente el peor camino para construir nuevas sociedades.
Donc le néolibéralisme s'est montré et ça a démontré comme les pires des chemins pour construire une bonne société.
Creo que respondí.
Il pense qu'il a répondu, Lucien.
La deuxième chose que je voudrais savoir, est-ce qu'on pourrait aller maintenant justement dans une société où on va aller vers le bien commun? Est-ce que c'est la solution?
La pregunta que hace Lucien, ¿es que estamos yendo hacia una sociedad de bien común? ¿Es algo que a usted le parece real?
Creo
y posible,
que caminamos a una, creo que caminamos a una sociedad menos igualitaria y una sociedad de mayores privilegios para las élites, especialmente en América Latina.
Donc, d'après lui, spécialement en Amérique latine, on va vers un chemin plutôt d'inégalité, de privilèges envers, comme d'habitude, les élites, les gros industriels.
Estudios como el de Thomas Piketty lo demostró para el mundo.
Des études comme celui de Thomas Piketty, c'est ça, a démontré ce que il vient de soutenir Juan.
El capital en el siglo 21.
Donc le capital dans le 21e siècle.
El libro de Piketty.
Ça c'est le livre
1% del mundo concentra la riqueza del mundo.
Donc, il y a que 1% dans le monde où est concentrée la richesse.
Tenemos que cambiar ese sistema.
Il faut changer ce système.
Justement, est-ce qu'il ne faut pas aller vers un système où le bien commun, comme l'air, comme l'eau, deviennent les règles?
Entonces, justamente, no sería mejor irnos hacia ese camino de bien común, en donde el agua, l'eau, qu'est-ce que tu as dit d'autre?
L'eau, l'air qu'on respire.
L'aire que respiramos sont bienes comunes que no deberían ser un privilegio.
Sí, tenemos que cambiar concepto. Y la Constitución del Ecuador, cuando acogió el principio del buen vivir, provoca un cambio de conceptos precisamente también con la relación frente a la naturaleza, que son bienes públicos, bienes sociales.
Donc oui, il faut changer les concepts. Et donc un exemple, lorsqu'il y a eu ce changement avec cette Constitution lors du mandat de Rafael Correa, avec le bon vivre, on est redevenu à cette façon de vivre avec les biens communs comme un droit et non pas comme un privilège.
Bon, je pense que c'est l'exemple qu'il faut qu'on continue à voir, à développer.
Mm-hmm. Lucien piensa que c'est l'exemple que tendríamos que continuar desarrollando y avanzando hacia ello.
Estoy convencido que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo, nuevos conceptos y sobre todo la consideración de que hay bienes públicos y sociales que no pueden estar concentrados en manos privadas, uh-huh. incluyendo en ello la comunicación para que tenga responsabilidad social y no que sirva de apoyo político para las élites dominantes.
Donc, il est convaincu effectivement qu'il faut créer tous ces concepts, ces nouveaux concepts du bon vivre pour que ces services publics ne soient pas un privilège mais un droit pour le citoyen, pour la communauté, pour la société, mais également aussi le droit de la communication, les médias qui devraient être aussi un droit et non pas un pouvoir politique comme c'est le cas aujourd'hui un peu partout dans le monde. J'espère ne pas avoir oublié. Est-ce que ça te va?
Oui, la réponse me convient parfaitement. Et donc, je pense qu'il faut qu'on continue à aller dans ce sens-là.
Oui, donc, parce que Lucien est très contento de la satisfecho de la respuesta y piensa que efectivamente tenemos que seguir con ese sistema de cambio en nuestra sociedad.
Así es.
Donc Rosario va juste remercier notre camarade Juan pour son intervention.
En nombre del colectivo Revolucionarios en Francia, le queremos dar nuestro agradecimiento al doctor Juan Paz Dimiño por habernos concedido este tiempo y por esa explicación clara, precisa y muy comprensible. Teníamos más preguntas, pero bueno, desgraciadamente el tiempo no nos da. Esperamos que en otra oportunidad sea posible. Y bueno, desearle una excelente semana y agradecerle nuevamente por esta explicación y por su intervención.
Au nom du mouvement révolutionnaire en France, on remercie donc son intervention à l'historien Juan Paz Dimiño pour le temps qu'il nous a dédié et pour les explications qui nous ont permis de comprendre peut-être mieux aussi la politique en Équateur, mais pas seulement, puisque c'est un phénomène qui apparaît un peu partout dans le monde. Et vous remercier pour cet espace. On vous souhaite une très bonne semaine, Juan, et merci pour votre intervention.
Muchas gracias por la invitación. Alexandra, un agradecimiento especial por la excelente traducción y a todas las personas que han escuchado y han visto esta intervención. He procurado ser claro y que se comprenda el proceso que vivimos en Ecuador y seguramente con franceses, con la población francesa, los ciudadanos franceses, los amigos franceses, participamos de muchos conceptos similares para el cambio de la sociedad y una vida mejor.
Bien, de la part de Juan, il remercie aussi pour cet espace, pour notre collaboration aussi, pour qu'il ait pu être entendu. Et surtout, le lien qu'il peut faire comme conclusion, c'est même la société française, pour qu'elle s'identifie, on pense, avec ce processus que l'Équateur vit, puisque nous voulons tous ce changement on souhaite ce changement profond, puisqu'en France aussi, hein, on est en plein dans cette quête de changement. Merci Lucien et muchas gracias Juan.
Merci Lucien, muchas merci gracias. France Paris Pluriel pour l'espace et puis bonne semaine. Oui,
exactement. Bonne semaine à tous.
Muchas gracias. Paris Pluriel.
106.3 FM. Yo, what's good, Pan Am? FPP Radio. Pan Am Live, FPP Radio. Yo, what's good, Pan Am? Pan Am
106.3 FM.
Live, FPP Radio. Radio. Pan Am Live Radio.
On 106.3 FM. Paris, what's good?
FPP.
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 Fréquence Paris pluriel.
106.3 FM. FPP.
FPP.
Radio musicale.
Culturelle. Solidaire.
Et politique.
Retrouvez tous les programmes sur le site
www.rfpp.net.
Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade.
FPP. 106.3.
C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi.
Fréquence Paris pluriel.
Tu es un esclave, Néo.
Avec FPP, vous avez le choix.
N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.